Chapitre 61. Dolman Island, dimanche 14 juin 1981. Saul avait l'impression d'avoir déjà vécu tout cela. Le bateau accosta à minuit passé, et Tony Harrod fit descendre Saul et Miss Sewell sur le quai en béton. Puis ils attendirent tandis que Harrod, censé contrôler ses pions, rengainait son arme. Deux chariots électriques s'approchèrent, conduits par des hommes vêtus d'un blazer bleu et d'un pantalon gris. Et Harrod dit à l'un d'eux, « Emmenez ces deux-là dans l'enclos. » Saul et Miss Sewell s'assirent sur le siège central, surveillés par un homme armé d'un fusil automatique. Saul jeta un coup d'œil à sa compagne. Son visage était dénué de toute expression. Elle n'était pas maquillée, ses cheveux étaient ramenés en arrière, sa robe bon marché pendait sur son corps. Le chariot fit halte au poste de contrôle situé au sud de la zone de sécurité, puis s'engagea dans un no man's land pavé de coquillages écrasés. Et Saul se demanda quelles informations étaient relayées à Nathalie par l'entremise du jeune familier de Mélanie Fuller. Derrière la grille nord de la zone de sécurité, ils découvrirent des installations de béton brillamment éclairées. 10 autres pions venaient d'arriver, et Saul et Miss Sewell les rejoignirent dans une cour grande comme un terrain de basket et entourée de clôtures de fils de fer barbelés. On ne voyait ni blazer bleu ni pantalon gris de ce côté-ci de la zone de sécurité. Des hommes vêtus de treillis kaki et coiffés de casquettes noires serraient dans leurs bras des fusils automatiques. Grâce au dossier monté par Cohen, Saul savait qu'il s'agissait de membres de l'armée privée de Barent. Et grâce à l'interrogatoire de Harrod effectué 2 mois auparavant, il savait également que chacun d'eux avait été soigneusement conditionné par son maître. Un homme de haute taille portant un holster sous l'aisselle s'avança et ordonna « Allez, déshabillez-vous !» Les 12 prisonniers, des hommes jeunes en majorité, parmi lesquels Saul distingua néanmoins 2 adolescentes, échangèrent un regard terne. Tous semblaient drogués ou en état de choc. Saul connaissait bien cette expression. Il l'avait vue sur le visage de ceux qui s'approchaient de la fosse de Helmno ou descendaient du train à Sobibor. Miss Sewell et lui commencèrent à se dévêtir, mais la plupart des autres restèrent sans réaction. « Déshabillez-vous, j'ai dit !» cria l'homme au holster, et un garde s'avança, leva son fusil, et donna un coup de crosse au prisonnier le plus proche, un garçon de 18 ou 19 ans, aux vers épais et aux dents proéminentes. Il s'effondra sans un bruit, face contre terre. Saul entendit ses dents se briser sur le béton. Les 9 autres jeunes gens commencèrent à se déshabiller. Miss Sewell fut la première à avoir fini. Saul remarqua que son corps paraissait plus jeune que son visage, et arborait une cicatrice d'appendicectomie livide. Les gardes ordonnèrent aux prisonniers de se mettre en rang, tous sexes confondus, et les guidèrent le long d'une longue rampe qui s'enfonçait sous terre. Saul aperçut du coin de l'œil des couloirs carrelés donnant sur l'axe central qu'il foulait. Des hommes vêtus de treillis venaient parfois observer le défilé des pions, et ceux-ci durent se presser contre le mur, lorsqu'apparut un convoi de 4 jeeps qui emplit le tunnel de bruit et de gaz d'échappement. Saul se demanda si l'île tout entière n'était pas parcourue de tunnels souterrains. On les fit entrer dans une pièce nue et brillamment éclairée, où des hommes vêtus de blouses blanches et portant des gants de chirurgien leur sondèrent la bouche, l'anus et le vagin. Une des jeunes femmes se mit à sangloter et un garde la fit taire d'une gifle. Saul se sentait étrangement calme, alors même qu'il se demandait d'où venaient ses compagnons de captivité, s'ils avaient déjà été utilisés, si son comportement différait notablement du leur. De la salle d'examen, on les conduisit dans un long couloir apparemment taillé dans le roc. Les murs suintants étaient peints en blanc et recelaient de petites niches hémisphériques contenant des silhouettes nues et silencieuses. Les prisonniers firent halte pendant que Miss Sewell pénétrait dans une niche. Et Saul comprit qu'il aurait été inutile de construire des cellules de taille normale, les prisonniers ne devant pas séjourner sur l'île plus d'une semaine. Puis ce fut à son tour. Les niches étaient creusées à différentes hauteurs, étages de croissants aux mâchoires d'acier découpées dans la pierre blanche. Celle de Saul était à 1,20 m au-dessus du sol. Il y entra. La pierre était fraîche au toucher, la niche juste assez large pour qu'il puisse s'étendre. Une rigole et un trou puant creusé au fond de l'étroite geôle servaient de toilette. Les barreaux hydrauliques s'abaissèrent pour se loger dans des trous profonds, mais il subsistait un espace haut de 5 cm par où on pouvait glisser un plateau repas. Saul s'étendit sur le dos et contempla la pierre à 40 cm de son visage. Quelque part dans le couloir, un homme se mit à crier d'une voix rauque. Un bruit de pas, des coups sur la chair et le métal, et le silence se fit. Saul se sentait calme. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Bizarrement, il ne s'était jamais senti aussi proche de sa famille, ses parents, Joseph, Stepha, depuis plusieurs dizaines d'années. Saul sentit ses yeux se fermer, et il les rouvrit, les frotta, puis remit ses lunettes. Étrange qu'on lui permît de garder ses lunettes. Il essaya de se rappeler si les prisonniers nus qui s'entassaient dans la fosse de Ralmno avaient eu l'autorisation de garder leurs lunettes. Non. Il avait fait partie d'un groupe chargé d'entasser à la pelle des centaines, des milliers, des tonnes de lunettes sur une grossière chaîne roulante, où d'autres prisonniers séparaient le verre du métal, l'acier du métal précieux. Le Reich ne gaspillait rien, ne laissait rien perdre. Sauf les êtres humains. Il se força à ouvrir les yeux, se pinça les joues. La pierre était glaciale, mais il savait qu'il n'aurait aucune peine à glisser dans le sommeil, à glisser dans les rêves. Il n'avait que rarement dormi durant les 3 semaines précédentes, car chaque fois qu'il entrait en phase de mouvement oculaire rapide, cela déclenchait les suggestions post-hypnotiques qui formaient désormais ses rêves. Cela faisait 8 jours qu'il n'avait plus besoin du stimulus du son de cloche. Le MOR suffisait à lui seul à déclencher les rêves. Était-ce des rêves ou des souvenirs? Saul ne le savait plus. Ses rêves, ou ses souvenirs, étaient devenus réalité. Les jours qu'il avait passés auprès de Nathalie à faire des plans et des préparatifs étaient des rêves. C'était pour cette raison qu'il se sentait aussi calme. L'obscurité, le corridor glacé, les prisonniers nus, les cellules, tout cela était bien plus proche de sa réalité onirique, des horribles souvenirs des camps de la mort, que les chaudes journées durant lesquelles il avait observé Nathalie et Justin. Nathalie est la créature morte qui ressemblait à un enfant. Saul essaya de penser à Nathalie. Il ferma les yeux, serra les paupières à en pleurer, rouvrit les yeux en grand et pensa à Nathalie. Elle avait trouvé la solution jeudi, 3 jours auparavant.
« Saul !»
s'était-elle écriée, reposant les cartes sur la table de la cuisine et se tournant vers lui.
« Nous ne sommes pas obligés d'agir seuls. Nous pouvons avoir quelqu'un pour surveiller l'évacuation pendant que quelqu'un d'autre restera à Charleston. »
Derrière elle, les agrandissements des photos prises à Dolman Island recouvraient le mur de la pièce comme une mosaïque grenue. Saul avait secoué la tête, trop harassé pour réagir à son enthousiasme.
« Comment ? Il n'y a plus personne, Nathalie. Ils sont tous morts. Rob, Aaron, Cohen. Et Mix doit piloter l'avion. »« Non ! Il y a quelqu'un !»
dit-elle en se frappant le front du plat de la main.
« Ça fait des semaines que je n'arrête pas d'y penser. Il existe quelqu'un qui serait prêt à se joindre à nous. Et je peux le contacter dès demain. Je ne dois plus revoir Mélanie avant notre promenade de samedi. »
Elle lui fit part de son idée, et 18 heures plus tard, il la regardait descendre de l'avion de Philadelphie, flanquée de 2 noirs. Jackson semblait avoir vieilli durant les 6 derniers mois. Son crâne chauve luisait sous les néons du terminal. Les rides de son visage témoignaient de l'état de neutralité tacite prévalant désormais entre lui et le monde. Le jeune homme qui s'avançait à droite de Nathalie était diamétralement opposé à Jackson. Corps squelettique, démarche souple, visage fluide, sur lequel les expressions coulaient comme la lumière sur le mercure. Les échos de son rire suraigu résonnèrent dans le couloir du terminal, attirant l'attention des passagers. Saul se rappela qu'on le surnommait « Poisson-chat ». Plus tard, alors qu'il roulait vers Charleston, Jackson demanda « Lasky, vous êtes sûr que c'est bien Marvin ?»«
C'est bien lui, mais il a... changé. »
« La sorcière vaudou s'est emparée de lui ?»
demanda Poisson-chat. Il tournait le bouton de l'autoradio en quête d'une station correcte.
« Oui. »
Saul n'arrivait toujours pas à croire qu'il abordait ce sujet avec quelqu'un d'autre que Nathalie.
« Mais nous avons peut-être une chance de le récupérer, de le sauver. »«
Ouais, mec, et c'est ce qu'on va faire, » dit Poisson-chat. « Je préviens les copains. » Et le Saul Brickyard va débarquer dans cette ville pourrie comme des morpions sur une chatte, tu piges ?
Non, dit Saul, ça ne marcherait pas.
Nathalie a dû vous expliquer pourquoi.
Ouais, dit Jackson. Mais qu'est-ce que vous en pensez, Lasky ? Combien de temps on doit attendre ?
15 jours. D'une façon ou d'une autre, tout sera fini dans 15 jours.
15 jours, d'accord.
Ensuite, on fera le nécessaire pour récupérer Marvin. Que vous ayez fini ou non ce que vous devez faire.
Nous aurons fini.
Saul regarda le colosse assis sur la banquette arrière.
Jackson, je ne sais pas si c'est votre nom ou votre prénom.
C'est mon nom. J'ai renoncé à mon prénom quand je suis revenu du Vietnam. Il ne me servait plus à rien.
Et je m'appelle pas vraiment Poisson-chat, Lasky. Mon nom? C'est Clarence Arthur Théodore Varch.
Il serra la main de Saul et lui sourit.
Mais tu sais, mec, comme t'es un copain de Nathalie, tu peux m'appeler Mr. Varch.
Le jour précédent celui du départ s'était révélé le plus pénible. Saul était sûr que tout irait de travers. La vieille ne respecterait pas leur accord. Elle avait été incapable d'effectuer le conditionnement prévu durant les 3 semaines de mai, où Justin et Nathalie avaient observé le port à la jumelle. Les informations de Cohen étaient erronées, ou elles étaient correctes, mais les procédures avaient été modifiées durant les derniers mois. Tony Harrod ne répondrait pas quand on lui téléphonerait, ou il préviendrait les autres une fois sur l'île, ou il tuerait Saul et le pion de Melanie Fuller dès qu'il serait en mer, ou il amènerait Saul sur l'île, mais Melanie Fuller choisirait ce moment-là pour se retourner contre Nathalie, la massacrant pendant que Saul serait réduit à l'impuissance et attendrait la mort. Puis le samedi arriva, et ils prirent la route de Savannah, arrivant sur le parking près du canal avant le crépuscule. Nathalie et Jackson se dissimulèrent dans les fourrés à une 60aine de mètres du lieu de rendez-vous. Nathalie, armée du fusil qu'ils avaient trouvé dans la bronco du shérif adjoint en Californie, et qu'ils avaient décidé de conserver lorsqu'ils avaient planqué le M16 et une bonne partie de leur stock de C4. Poisson-chat, Saul, et la créature que Justin avait identifiée comme Miss Sewell avaient attendu, les deux hommes buvant de temps en temps du café dans une bouteille thermos. À un moment donné, la tête de la femme avait pivoté comme celle d'une poupée de ventriloque, et elle avait regardé fixement Saul.
« Je ne vous connais pas. »
Saul l'avait regardé sans rien dire, impassible, s'efforçant d'imaginer l'esprit responsable de tant d'années de violence insensée. Miss Sewell avait fermé les yeux avec la soudaineté mécanique d'un coucou suisse. Personne n'avait plus prononcé un mot jusqu'à l'arrivée de Tony Harrod, peu de temps avant minuit. Saul avait bien cru que le producteur allait lui tirer dessus durant les longues secondes où il avait braqué son arme sur lui. Les tendons saillaient sur la gorge de Harrod, et Saul vit que le doigt posé sur la détente était livide de tension. Il avait été terrifié à ce moment-là, mais il s'agissait d'une terreur contrôlable, rien à voir avec l'angoisse de la semaine précédente, ni avec la peur abjecte de la fosse et le désespoir de ses rêves nocturnes. Quoi qu'il arrive, Saul avait choisi son destin. Finalement, Harrod s'était contenté d'insulter Saul et de lui donner 2 coups de crosse sur le visage, lui ouvrant une légère entaille sur la joue droite. Saul n'avait rien dit, n'avait pas fait mine de résister, et Miss Sewell était demeurée également impavide. Nathalie avait ordre de tirer seulement si Harrod abattait Saul, ou s'il utilisait un tiers pour l'attaquer dans l'intention de le tuer. Saul et Miss Sewell prirent place sur la banquette arrière de la Mercedes, poignets et chevilles enchaînées. La secrétaire eurasienne de Harrod, Maria Chen, à en croire les rapports de Harrington et de Cohen, les avait soigneusement attachés tout en prenant garde à ne pas interrompre la circulation du sang dans leurs membres. Saul l'observa avec intérêt, se demandant comment elle en était arrivée là, quelles étaient ses motivations. Tel était l'éternel défaut de son peuple, soupçonnait-il. Les Juifs avaient toujours cherché à comprendre la raison des choses. Ils débattaient encore du Talmud lorsque leurs tortionnaires frustes les conduisaient au four crématoire. Leurs assassins ne se souciaient jamais de la fin et des moyens, pas plus que de la morale. L'essentiel étant que les trains arrivent à l'heure et que les formulaires soient correctement remplis. Saul Lasky eut un sursaut un instant avant de plonger dans les rêves induits par la phase de MOR. Il avait intégré une centaine de biographies fournies par Simon Wiesenthal dans son catalogue de personnalités accessibles par hypnose. Mais seule une douzaine d'entre elles revenaient régulièrement dans les rêves qu'il s'était conditionné à faire. En dépit des heures qu'il avait passées au Yad Vashem et au Lohamei Hagetahot, il ne rêvait pas de leur visage, car il voyait le monde par leurs yeux, mais le paysage de leur vie, dortoirs et ateliers, barbelés et visages hagards, était redevenu celui de l'existence de Saul Lasky. Couché dans une niche de pierre au cœur de Dolman Island, il comprit qu'il n'avait jamais quitté le paysage des camps de la mort. En fait, c'était le seul pays dont il pouvait se considérer comme un authentique citoyen. Alors qu'il arrivait au seuil du sommeil, il sut qui allait le visiter en rêve cette nuit. Shalom Krasek, un homme dont il avait mémorisé la vie et le visage. Deux éléments qu'il avait perdus à présent que ses souvenirs étaient devenus réalité. Deux données égarées au sein de la mémoire. Saul n'avait jamais mis les pieds dans le ghetto de Varsovie, mais il s'en souvenait désormais chaque nuit. Les réfugiés fuyant l'incendie par les égouts, les excréments leur tombant dessus dans les conduites obscures et de plus en plus étroites où ils avançaient en file indienne, leurs jurons, leurs prières pour que personne ne meure devant eux, leur bloquant le passage, des dizaines d'hommes et de femmes paniqués, rampant et se frayant un chemin dans la fange aryenne, espérant parvenir derrière les murs, derrière les panzers. Krasek conduit Léon, son petit-fils âgé de 9 ans, dans les égouts ariens, sous une pluie d'excréments ariens, dans une eau qui monte sans cesse, les étouffe, menace de les noyer. Et une lumière apparaît, mais Krasek émerge seul à la lumière arienne, et il fait demi-tour, force son corps à s'insinuer à nouveau dans ce trou étroit et puant, où il a déjà passé 2 longues semaines, pour retrouver Léon. Sachant que ce rêve serait le premier d'une série de rêves qui n'en était plus, Saul l'accepta et s'endormit.